Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission qui s'appelle aussi Radicaux Libres, la page de l'émission sur un site qui s'appelle lui Radio Alpa puisqu'on est sur Radio Alpa. On aurait pu vous parler cette semaine des polluants éternels, ça va être long, des produits chimiques de synthèse dont la durée de vie dépasse notre horizon humain. Samedi 2 mars, plus de 400 militants d'Extinction Rébellion Lyon et de Youth for Climate Lyon ont envahi l'usine Arkema qui balance dans nos milieux de vie des perfluorés qui font partie du polluant éternel le suscité. 8 de ces militants ont été arrêtés et de nombreux médias se sont fait le relais de la parole préfectorale. Écoutons donc Juliette Brossard, sous-préfète déléguée pour la défense et la sécurité pour le département du Rhône.
Tout d'abord, je tiens à condamner fermement les violences et les dégradations qui ont été commises cet après-midi par le groupe de manifestants. Ils étaient environ 150 de la mouvance environnementaliste qui se sont introduits sur le site Arkema. Ils ont découpé des grillages, brisé des vitres, il y a eu des tags également, certains sont montés sur les bâtiments, ils se sont mis en danger, ils ont mis en danger les forces de l'ordre qui sont intervenues et les salariés présents sur le site. Je rappelle que c'est un site sensible qui fait l'objet d'une protection et d'un suivi au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Et donc aucune cause, aucune action revendicative ne justifie ces dégradations et ces violences.
Aucune. Non. La dramatisation est de mise dans la société du spectacle. Alors forcément, une très bonne actrice, Juliette Brossard, elle devrait faire carrière dans la préfectorale puisque elle dit exactement ce que dit son ministre, enfin le ministre des Pandores, c'est-à-dire en l'occurrence Gérald Darmanin. Elle est à deux doigts de nous parler d'éco-terroristes. D'un côté, donc un producteur de polluants éternels qui amène quand même la préfecture à demander aux populations de ne pas consommer les produits des jardins dans un rayon de 500 mètres autour de l'usine, et de l'autre, des vitres brisées, des tags et des déploiements de banderoles. C'est-à-dire des actions qu'aucune cause, aucune action revendicative ne justifie. Par contre, s'il y a du pognon à se faire, toute atteinte au milieu de vie est justifiée. On aurait pu vous parler des conséquences de la réforme de l'assurance chômage de 2019, qui a entraîné une baisse générale des indemnités, que 50% des demandeurs d'emploi ne touchent pas d'ailleurs, des indemnités. Oui, on oublie souvent de le dire dans les médias, que la moitié seulement de ceux qui sont inscrits au Pôle emploi touchent une indemnité chômage, oui, les autres n'y ont pas droit. Voilà, soit parce que ils travaillent trop, une petite partie de la population qui est demandeuse d'emploi travaille un peu, pas assez, dans la précarité, et donc du coup reste inscrite au Pôle emploi, et puis une autre partie n'a pas réussi à acquérir assez de droits, et donc du coup végète là, dans le marasme de la non-indemnisation. Et bien donc, une baisse générale des indemnités avec la réforme de l'assurance chômage de 2019, et cette baisse concerne plutôt les jeunes et les précaires. Quand on vous parle de la guerre aux pauvres, voilà un exemple. À propos de guerre, la guerre en Ukraine, Macron à Prague, no comment. On aurait pu vous parler de l'événement de la semaine, l'inscription de la liberté d'interrompre volontairement sa grossesse pour une femme dans la Constitution de la République française. Une inscription qui fut refusée par les macronistes quand c'est proposé par la France Insoumise en 2018. Une inscription qui utilise le mot liberté au lieu de la notion juridique de droit. Oui, mais voilà, ça c'est une concession à la droite raciste. Qui s'appelle les Républicains, oui. Une inscription qui a permis de faire de belles images. Merci quand même à Catherine Ringer de ne pas s'être laissée happer par le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep lors de la cérémonie de vendredi. On aurait pu vous parler du drapeau tricolore qui n'est pas sur l'affiche officielle des Jeux Olympiques dévoilés cette semaine. Cette absence alerte la fachosphère médiatique qui a oublié l'indépendance politique du Comité International Olympique. Pas l'indépendance économique, le CIO étant totalement en accord avec les valeurs du libéralisme. Oui, par exemple, plus c'est mieux, plus haut, plus fort, plus ceci, plus cela. La réussite, le classement, la hiérarchie, à fond le CIO pour le libéralisme. Par contre, ils nous font croire qu'ils sont indépendants au niveau politique. Alors, du coup, ils ne mettent pas de signes religieux ni de drapeau sur les affiches officielles. Par contre, la même fachosphère a dû être rassurée de voir le drapeau sur un colis parachuté sur la bande de Gaza, après le soutien inconditionnel de nos soi-disant représentants, à ce d'Israël, comme quoi ça s'appelle un retournement de veste. On aurait pu vous parler du syndicat de la famille, qui s'affiche au Mans sur les panneaux d'expression libre, avec des affiches qui ont pour slogan « On est femme » du verbe « naître » et « On le devient ». Ah ben voilà, c'est du début jusqu'à la fin. Oui, il n'y a pas de choix possible. Et alors, naître femme et le devenir, bah, ça veut dire, là, ils prennent comme exemple une reine, Josephine Baker, et puis également une religieuse. Voilà, ça laisse un petit peu présager de qui sont les membres de ce syndicat de la famille. Eh bien, n'allons pas plus loin. En fait, les syndicats le syndicat de la famille, c'est en fait la manif pour tous. Et une visite sur le site vous convaincra que la droite catholique nationaliste est à la manœuvre quand vous voyez ses affiches. Rappelons que personne n'est obligé de supporter ce qui s'étale sur les panneaux d'affichage libre. Et du coup, bah, ça nous permet d'introduire la minute des enfants. Pourquoi ? Parce qu'on va parler du M. Bah, j'ai tout dit là.
J'arrête.
C'est la minute des enfants.
Aujourd'hui, le M.
M. Le M comme macho. Macho. C'est une croyance que les adultes montrent aux garçons lorsqu'ils sont enfants pour leur faire croire qu'ils sont meilleurs ou supérieurs aux filles. Les adultes qui sont machos blessent et font du mal aux femmes, n'obéissent pas à toutes les croyances des adultes, certaines sont mauvaises et rendent les gens violents. Copie les choses que tu trouves bonnes, pas celles que tu trouves mauvaises. À bon entendeur, peut-être que essayer d'attraper une femme pour l'enlacer alors qu'elle n'est pas d'accord lors d'une cérémonie d'inscription de la liberté d'avorter dans la Constitution, eh ben, ça montre un certain machisme de la part de certains. Vous aurez reconnu le mauvais acteur, mais vrai banquier, qui nous sert de péter de la rep. Mais finalement, on a préféré commencer une série d'émissions sur la psychiatrie en Sarthe. Allons bon, eh ben pourquoi pas. Alors, loin de nous l'idée de faire une tournée générale de la psychiatrie en Sarthe, on va donner quelques informations. On a rencontré quelques-uns des acteurs, mais pas tous, hein, loin s'en faut. Et bah, du coup, ça va nous permettre peut-être de constater ce qu'est la psychiatrie en Sarthe. Et puis, on continuera pour voir que peut-être il y a des solutions, sans doute, aux conséquences que peuvent avoir les constats que nous allons faire aujourd'hui. Le mot psychiatrie déjà recèle déjà tout un imaginaire avec ces lieux, les asiles d'aliénés qui sont devenus plus tard des hôpitaux psychiatriques et maintenant des établissements qui s'occupent de santé mentale. Ces acteurs, alors les fous sont devenus des malades mentaux au fur et à mesure du temps et finalement des personnes atteintes de troubles psychiques. Rien que pour les termes employés, on s'aperçoit que la perception publique change, la perception publique de la psychiatrie. Seulement, l'ignorance et les préjugés continuent de générer de la stigmatisation envers les personnes atteintes de troubles psychiques. En premier lieu, le préjugé de la dangerosité des psychotiques. Arnold Ravenel, membre du collectif Plénitude, un collectif d'usagers des structures adaptées aux personnes atteintes de troubles psychiques, démystifie le sujet.
Alors, sur la dangerosité, je vais casser un mythe, hein. Les psychotiques sont statistiquement moins dangereux pour les autres que le lambda. Par contre, ils ont plus tendance à retourner leur violence contre eux-mêmes. Il y a plus de suicides chez les psychotiques, les schizophrènes en particulier. Mais voilà, c'est... Donc là, le mythe du dangereux schizophrène qui agresse les gens, c'est vraiment à la marge. Ça se passe, ça fait plus d'éclat parfois parce que c'est délirant quand ça a lieu, mais c'est vraiment minoritaire, quoi. C'est la marge.
Mais il est vrai que dans la société du spectacle, à partir du moment où c'est spectaculaire, waouh, on met ça en premier à la une d'un certain nombre de médias, alors que ce sont des faits divers et que ça ne fait pas justement système ni société. Mais l'idée de fou égale danger, l'idée de psychotique égale danger, l'idée perdure et de nombreux malades n'osent pas parler de leur pathologie, comme nous l'explique Steven, que l'on va présenter après. Est-ce que vous arrivez à parler aussi de votre pathologie avec des gens ailleurs ?
C'est vrai que quand on dit que parce que moi je souffre de la schizophrénie et on a tendance à stigmatiser les schizophrènes, dire que c'est des gens méchants, dangereux, alors que non, quoi. Moi je veux le bien de chacun, je veux la paix, je veux que les gens soient heureux, qu'on arrête les guerres, qu'on vive dans un monde un peu meilleur, quoi. Voilà.
Mais quand vous parlez de schizophrénie à d'autres gens, tout de suite il y a un mouvement de recul ou enfin les gens ont un peu peur.
J'hésite de trop parler de ça à des gens que je connais pas ou Parce qu'après, on peut nous stigmatiser, nous insulter, dire qu'on est des gens dangereux, dire à une maman qui dit à son enfant « attention à lui, fais gaffe », alors que non, quoi. On est gentil, on essaie de se faire respecter des autres, quoi.
Eh oui, c'est déjà ça, se faire respecter des autres. Steven Swissy, nous l'avons rencontré au GEM Tégira, rue nationale au Mans. Les GEM, ce sont des groupes d'entraide mutuelle, des associations nées de la loi de 2005, intitulée « Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ou isolées socialement ». C'est joli. Arnaud, trésorier de l'association GEM, est lui-même touché par des troubles psychiques. Il nous explique qui est accueilli dans les GEM et quel est le rôle de ces groupes d'entraide mutuelle qui sont nés de cette loi de 2005.
À partir du moment où on fait partie de l'association, on est une personne qui a des difficultés psychiques.
Alors, quelque part, oui, parce qu'en fait, c'est la majorité des gens qui viennent chez nous, mais on accueille aussi les personnes qui sont isolées. Quelque part... Quand on est isolé, on va développer des pathologies psychiques très souvent. Hein. C'est très fréquent, par exemple, la dépression. Puis il y a l'ennui. C'est un peu une perte de sociabilité. Donc nous, en fait, on accueille les gens qui sont vraiment dans le besoin pour créer du lien social. Nous, ici, en fait, on est un peu comme un tremplin vers l'autonomie. C'est-à-dire que les gens arrivent avec leurs difficultés et on leur donne l'occasion, en fait, de se débrouiller par eux-mêmes et de reprendre confiance.
Lutter contre l'isolement, facteur d'aggravation de troubles psychiques, voilà l'une des idées, l'un des rôles principaux des GEM. Un isolement qui ne touche pas que les dépressifs et a fortiori les psychotiques. Cet isolement peut aussi tomber sur les familles et les proches. Pascal Boucherie, délégué départemental de l'UNAFAM, l'Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques, nous relate son expérience.
Ça fait partie d'une des actions prioritaires de notre association, au-delà d'accompagner et d'accueillir les familles, c'est de travailler sur tout ce qui est la lutte contre la stigmatisation. Hein, parce que quand ça vous arrive dans une famille, pour certains témoignages qu'on peut avoir, vous pouvez vite faire le tri dans vos vrais amis, voire même dans la famille proche. Hein, vous disiez tout à l'heure fou, non peut-être pas, mais il y a des mots aujourd'hui autour de maladie, si on parle mettons de schizophrénie, où les gens ne connaissant pas, se font une image d'une personne atteinte de schizophrénie qui n'est pas du tout la réalité d'une personne atteinte de cette maladie-là. Donc on a vraiment une grosse action au sein de notre association pour aller vers les gens et une priorité de parler aussi de santé mentale avant d'utiliser des mots qui font peur, à dire. Hein. Déjà d'aborder la santé mentale en disant que la santé mentale, on en a tous besoin, tout à chacun. Et si on parle de mots qui font un petit peu moins peur, on va dire, de dépression, de burn-out, les gens finissent par s'apercevoir, ah ben oui, dans mon entourage, ou voire même, peut-être moi-même, j'ai peut-être ma santé mentale fragile. Donc c'est aussi un enjeu de travailler sur cet item-là, d'aborder correctement le bien fondé d'avoir une bonne santé mentale.
Dans la série « Ça n'arrive pas qu'aux autres », la souffrance psychique semble malheureusement très étendue. À propos du monde du travail, on peut revoir sur le sujet le documentaire « Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés » qui date de 2006. On peut relire également l'ouvrage qui porte le même nom « Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés » qui est écrit par Marie Peset et qui avait ouvert une consultation sur la souffrance et le travail en 1997 dans la région parisienne. Les GEM, donc, le collectif Plénitude, l'UNAFAM, sont des associations de personnes directement concernées par les troubles psychiques, car ce sont elles qui poussent les autorités depuis des années à accompagner la vie des malades au-delà du soin.
Pour nos proches en souffrance psychique, on a aussi à travailler avec le médico-social, entre autres, c'est tout ce qui va être logement, hein, mais logement accompagné. C'est vrai que dans la société, on parle beaucoup d'inclusivité. C'est bien l'inclusion, mais on sait que pour nos proches, si elle n'est pas accompagnée, ça ne marchera pas complètement. Hein, donc que ce soit le logement, que ce soit l'emploi, on est sur des personnes qui ont besoin, comme tout à chacun, de trouver un emploi, mais faut... il encore être en capacité de l'adapter et d'avoir cette notion d'emploi accompagné. Donc on sait bien aussi, et ça c'est vrai pour nos proches, le soin on en a besoin, hein, parce que ça on sait que ça les aide à aller mieux et à stabiliser leur problématique. D'un autre côté, on sait qu'il n'y a pas pour qu'une personne se rétablisse, il n'y a pas que ça. Hein, on sait qu'on a tous besoin d'avoir une place dans la société, d'être reconnu.
Et cette reconnaissance, eh bien, elle est plus difficile encore. Imaginez pour quelqu'un que l'on pourrait qualifier d'ordinaire, elle est encore plus difficile pour les populations atteintes de troubles psychiques dans une société où la performance prend tellement de place. La délégation de la Sarthe de l'UNAFAM, dont nous venons de réentendre Monsieur Bouchery, délégué départemental, est créée en 1980. Comme l'association n'a pas pour objet la gestion de structure, elle crée l'Adgesti en 1981, avec pour projet un foyer pour accueillir des malades. Le foyer ne verra jamais le jour, enfin, il ne verra pas le jour à cette époque-là, faute d'autorisation des autorités. Par contre, l'idée d'une entreprise adaptée, un centre d'aide par le travail, un CAT devenu ESAT depuis, est acceptée. Ça sera Katmanor pour CAT Le Mans Nord. À cela s'ajoute un club de loisirs, l'ancêtre du GEM Loisirs, l'un des deux groupes d'entraide mutuelle du Mans, avec le GEM Tégira, dont nous avons déjà parlé, et dont l'animateur Nicolas nous dresse un portrait.
Ce sont des associations qui répondent à un cahier des charges qui est défini par l'ARS. Les 650 GEM en France répondent à ce cahier des charges. Nous sommes subventionnés donc par l'ARS et pour faire fonctionner à minima donc un cadre qui est un local géré par une association d'utilisateurs, hein, d'usagers de ce GEM, des adhérents qu'on appelle des GEMeurs, qui se constituent donc en association avec un président, avec Arnaud qui a répondu aux quelques questions, donc qui est trésorier de l'association, et un animateur professionnel qui va être le garant du fonctionnement de cette association-là. Les associations, les GEM, donc, sont quasiment tous, et en tout cas ça fait partie du cahier des charges, donc parrainés par une association qui va venir en soutien. Nous, en l'occurrence, c'est l'UNAFAM, une association de parents et de proches de personnes en situation de handicap psychique, qui est à l'origine du GEM Tégira, dont certains parents ont fondé les premiers ateliers d'activité avec leurs proches. Aujourd'hui, nous sommes donc parrainés toujours par l'UNAFAM et en plus nous avons un gestionnaire qui est l'Adgesti. L'Adgesti est une association d'aide par le travail et d'accompagnement de personnes en situation de handicap psychique. Accompagne le GEM par la mise à disposition déjà d'un professionnel. Hein. Moi, je suis salarié de l'Adgesti, mis à disposition du GEM et va nous accompagner également sur tout ce qui est gestion financière et administrative de l'association.
Il existe donc plusieurs associations de support aux personnes atteintes de troubles psychiques pour les accompagner au quotidien, en partenariat avec les collectivités locales, l'ARS, l'autorité régionale de santé et d'autres associations comme l'AGFIP qui gère le fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Un environnement important car le bien-être va au-delà du fait d'être en bonne santé, tout le monde le sait. Et comme tout le monde, eh bien, les personnes atteintes de troubles psychiques recherchent du bien-être. En participant par exemple à un GEM ou en luttant pour faire entendre la voix des usagers de structures de soins comme le collectif Plénitude ou en ayant une place normale, classique, conforme, ordinaire. Dans la société, hein, on met le mot que l'on veut, un logement, des liens sociaux, un emploi, voilà tout simplement ce à quoi aspirent les personnes atteintes de troubles psychiques comme n'importe qui. Ce parcours du combattant se faisant dans une ambiance de stigmatisation de ceux qui ne réussissent pas seuls, en particulier dans notre société où la performance prend vraiment beaucoup de place, je l'ai déjà dit. Et ce parcours du combattant se fait également une fois que la maladie est domptée par le patient, une fois que le soin est passé par là. Quels sont donc les lieux d'hospitalisation en psychiatrie en Sarthe? Pascal Bouchery de l'UNAFAM nous répond.
On a le pôle Santé Sud. Après, vu qu'aujourd'hui, de par le manque de soignants, il n'y a plus d'urgence à l'EPSM de l'Aude et toute personne doit passer par le 15, donc à une entrée dans le monde de la psychiatrie via les urgences du centre hospitalier du Mans. Et il existe en Sarthe, et nous avons deux bénévoles en représentation d'usagers à la commission des usagers, au centre soins études Pierre Daguet à Sablé. Mais là, qui est plus pour accompagner des jeunes en souffrance psychique à retrouver un rythme scolaire. Mais sinon, à votre question, non, à part le PSM d'Allonne et le pôle Santé Sud en Sarthe, nous n'avons pas d'autres lieux d'accueil de personnes en souffrance psychique pour une hospitalisation.
Donc en Sarthe, l'offre de soins en psychiatrie comporte essentiellement un centre hospitalier à Allonnes, inauguré à la fin des années 60 et qui a remplacé l'asile situé gare sud rue Étoque des Mazis. Asile qui ne fermera qu'en, enfin asile, devenu aussi centre hospitalier, hein, qui ne fermera qu'en 2011. Depuis 1991, l'hôpital psy est devenu l'EPSM, l'établissement public de santé mentale, montrant un élargissement de la problématique des troubles psychiques. Et aujourd'hui, écoutons Audrey, infirmière à l'EPSM et militante à la CGT, qui nous présente l'EPSM.
Donc l'EPSM, c'est l'établissement public de santé mentale. On gère tout ce qui est hospitalisation des enfants, des adultes. On a des spécificités aussi, des courts séjours qui sont sur le CH du Mans. On a toute la prise en charge addictologie à la clinique Prémartine. On a également tout ce qui est suivi à l'extérieur, c'est-à-dire des centres médico-psychologiques qui suivent les gens qui sont sortis ou les gens qui ont juste besoin d'un suivi et pas d'une hospitalisation. Et puis d'autres petits services qui se déplacent à domicile, par exemple. En termes de personnel, aujourd'hui, on est autour de 1350 agents, tous métiers confondus. Et en termes de prise en charge de patients, alors on est sur 190 lits à peu près aujourd'hui.
190 lits, un établissement public de santé mentale qui en a perdu 180 des lits en 8 ans et qui perd également des personnels petit à petit, alors que la maladie mentale, bah, c'est pas une grippe. A priori, il faut essayer de gérer ça autrement. On écoute à nouveau Audrey, militante CGT et infirmière à l'EPSM.
C'est pas une grippe, une maladie psychique.
C'est pas une grippe et puis c'est pas une maladie ordinaire. Ça fait des années qu'on veut faire rentrer la psychiatrie dans le champ de la médecine classique. Sauf qu'on n'est pas une spécialité comme les autres. Effectivement, le diagnostic est compliqué. Chaque malade est différent. Il a une histoire. Il a un entourage qui n'est pas le même qu'un autre patient qui a la même maladie. Donc ça ne va pas se jouer de la même façon. Le traitement, c'est important, mais pas seulement. Il faut aussi tout un suivi psychologique. C'est difficilement comptable, en fait. Et c'est un peu là-dedans qu'on veut nous faire rentrer. On a fait ça dans le somatique, dans tout ce qui est soins physiques, avec la mise en place de la tarification à l'activité, par exemple. Vous avez une appendicite, bah, c'est temps, voilà, bof. La maladie psychiatrique, on essaie depuis quelques années de la faire rentrer là-dedans. Ça ne peut pas rentrer. Ça ne rentre pas dans les cases. Les personnes sont très différentes les unes des autres. On ne peut pas mettre des protocoles. On ne peut pas mettre tel traitement systématiquement pour telle maladie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et on a besoin de temps pour que la personne nous fasse confiance, nous parle, s'explique, mette sur la table tout ce qui ne va pas et puis essayer de l'aider à faire le tri. Tout ça, ça prend du temps et c'est du temps qu'on a de moins en moins.
En effet, la psychiatrie risque de connaître les errements de la médecine générale avec la T2A. Souvenez la tarification à l'acte. Eh, ça continue, hein. Souvenez-vous, donc, cette tarification à l'acte ou à l'activité revient finalement à la politique du chiffre dans la police, à savoir une vision purement comptable des actions à valoriser et donc à mieux payer. Et puis pour le reste, bah tant pis. Pour la psychiatrie, c'est la T2C, tarification au compartiment. En clair, l'ATI. L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, qui est un établissement public chargé de compiler les données sur le pognon de dingue dépensé pour la santé, nous en dit plus. Je cite. Depuis le 1er janvier 2022, les établissements du champ psychiatrique sont financés via un nouveau modèle de financement. Ce nouveau modèle est constitué de 8 compartiments. Ce nouveau modèle est commun à tous les établissements et comprend 8 compartiments. Premièrement, la dotation populationnelle DOTPOP, construite sur des critères populationnels et allouée à la maille régionale, afin d'assurer une meilleure équité de financement entre les régions. Deuxièmement, dotation file active, la DFA, construite sur la file active des établissements afin de reconnaître leur dynamique d'activité, à savoir bah, qui vient les voir, combien de fois, etc. Troisièmement, activité spécifique, valorise les activités pour lesquelles l'organisation de l'offre est supra-régionale. Quatrièmement, nouvelles activités, valorise les projets, modalités de prise en charge innovantes identifiées via des appels à projets nationaux ou régionaux. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez régulièrement récemment des articles dans la presse locale montrant une nouvelle innovation à l'EPSM, c'est pour rentrer dans le compartiment 4. 5. Transformation. Finance les actions restructurantes nationales et régionales portées auprès des établissements. 6. Recherche. Soutient la structuration de l'animation territoriale de la recherche en psychiatrie. 7. Qualité. Incite à l'amélioration de la qualité des prises en charge via l'intégration des établissements de psychiatrie au dispositif IFAC, qui lui aussi sert à faire de la qualité. Et enfin, 8. Qualité du codage, DQC, incite à l'amélioration de la complétude, de la conformité et de la cohérence des données remontées par les établissements. Dans le 8e point, hein, c'est un point aux bons élèves qui complètent bien les documents à compléter. C'est important de compléter les documents à compléter. Une tarification qui est dans les tuyaux depuis 2023, après une année blanche en 2022. Il faudra donc viser la certification pour avoir des sous au point 7, innover pour le point 4, avoir des petits plus que n'ont pas les autres pour le point 3, etc., etc. Il faudra donc passer du temps à remplir des tableaux de bord et connaître les pondérations et majorations pour ne pas grever le budget. On est loin du soin. Un soin qu'il est difficile de prodiguer quand on manque de médecins. Et c'est le cas à l'EPSM d'Allonne, où 29 postes de psychiatres sur 51 sont vacants. 29 sur 51. Arnold Ravenel du collectif Plénitude nous livre son analyse sur le problème.
La direction indique que si elle ferme des services, c'est parce qu'il n'y a pas de médecins. Comment se fait-il qu'il n'y a pas plus de psychiatres présents dans cet établissement de santé mentale ?
Il y a plusieurs raisons, mais c'est au niveau national. Il y a tout d'abord le numerus clausus en médecine, qui limitait le nombre de médecins formés depuis 20-30 ans. L'État, pour limiter les dépenses de santé, s'est dit moins de médecins, moins de dépenses. Donc on limite le nombre de médecins qui sortent de l'école. Et donc du coup, ça a drastiquement réduit les effectifs. Et là, on arrive en bout de chaîne parce que les médecins partent à la retraite, ne sont pas remplacés. Et du coup, il manque des médecins psychiatres. Deuxième élément, il y a aussi le côté la vie est belle dans le sud. Beaucoup de médecins partent dans le sud de la France pour les conditions de vie, ou Paris aussi dans une moindre mesure, et délaissent les zones intérieures de la France. Donc du coup, on se retrouve avec des carences en Sarthe, en Mayenne, ça commence à développer en Maine-et-Loire. Ça tient encore le coup en Loire-Atlantique, parce que là, on est sur le bord de la côte, mais voilà, c'est vraiment tragique.
Donc la Sarthe a du mal à être attractive pour ces personnes.
Alors déjà, il n'y a pas un CHU sur le Mans en tel quel. Il y en a un pas loin, mais ça joue un petit peu notre faveur quand même, mais ça limite la casse. Mais on aurait un CHU, un centre hospitalier universitaire. Les médecins sortiraient directement du CHU et s'installeraient. Mais ce n'est pas le cas, donc ça pas favorable. Et puis les conditions de vie en Sarthe ne sont pas... sont pas super, quoi. Hein. C'est pas la fête. Donc, du coup, les médecins sont pas intentés de s'installer en Sarthe. On est à un psychiatre sur deux qui manque en Sarthe. Un sur deux. Et avant la fermeture des lits, là, en juin-juillet, des 42 lits, on était à 35-40 équivalents temps plein pour les infirmiers qui manquaient. Donc, il y a un manque de ressources humaines, quoi, tout simplement.
Un manque de ressources humaines, eh oui, tout simplement. Fermeture de services par manque de personnel, vision comptable de la santé, mise en concurrence des territoires et des établissements par des nouvelles manières de financer la psychiatrie, tous ces éléments ont des conséquences sur les usagers, dont nous pourrions faire partie tant les troubles psychiques ne font pas de détails. Des conséquences que nous verrons la prochaine fois. Alors, une des conséquences que nous verrons la prochaine fois, mais en attendant la prochaine fois, je vous rappelle qu'il existe plein de choses à faire, notamment des activités de plein air. Le mardi 12, ciné-discussion, le génie des armes avec le collectif Défense des Arbres, avenue Bollé, une ciné-discussion qui aura lieu à la Maison des Citoyens, place des Comtes du Maine, avec le film Le génie des arbres, un film en version française à partir de 19h45, Maison des Citoyennes, Citoyens. Quoi d'autre dans la semaine? Eh ben, l'assemblée du collectif de défense des 200 arbres de l'avenue Bollé, qui sont devenus 403 puisqu'il y en a d'autres sur les chronolignes. Pas de sur l'avenue Bollé, mais sur le reste des chronolignes. Une assemblée qui aura lieu à 18h le mercredi 13 à la maison des citoyens citoyennes. Justement, manifestation aussi face aux violences étatiques et au racisme systémique qui aura lieu dans plusieurs villes samedi 16 mars. On en reparlera. Et en attendant, ben je vous dis tout simplement, allez, au revoir.